Louis Albrand a grandi dans une ferme à Saint-Crépin. Il connaît bien la vie des paysans des Hautes-Alpes dans les années 50 et a créé une collection d'objets qu'il a partagés sur les réseaux sociaux. Cette passion de l'histoire du terroir l'a conduit à étudier les archives du département et à retrouver la trace des femmes et des hommes qui ont marqué notre territoire à travers les âges. Il les évoque ici en descendant le cours de la Durance. Il nous présente chaque semaine la biographie de chaque personnage de ce territoire alpin sur Fréquence Mistral. Au micro de Laura Giraud.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Fréquence Mistral. Nous retrouvons Louis Albrand pour de nouvelles chroniques. Bonjour Louis.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Laura. Nous allons parler aujourd'hui d'un haut alpin célèbre, François de Beaune, duc de Lesdiguières. Et je mettrai comme sous-titre de ce papier « Ce champsaurin qui ne voulut pas être roi ». J'ai entendu prononcer le nom de Lesdiguières, j'avais 7 ans. Je visitais avec mes parents la cathédrale d'Embrun, et sur la porte du Réal, encadrée par les deux fameux lions lombards, fixait dans le bois un fer à cheval. Le bon curé d'Embrun nous expliqua alors que lors de la prise d'Embrun, Lesdiguières tenta de pénétrer dans l'église sur son cheval. Sa monture refusa d'entrer et frappa violemment la porte en y fixant le fer. Mais qui était ce terrible personnage? Il me parut diabolique, car le curé blanc de Saint-Crépin avait appris à l'enfant de cœur que j'étais que l'on pénètre dans ces lieux sacrés qu'avec le plus grand respect, le béret à la main comme faisaient nos anciens. Donc, qui était ce fameux Lesdiguières? Je le retrouvai à Paris, où pendant 40 ans, je travaillais au ministère de la Justice, à la Chancellerie, et tout proche, à l'église Saint-Roch, rue du Faubourg-Saint-Honoré. En entrant dans l'église, tout de suite à droite, dans le mur, il y avait là un panneau indiquant la présence du cœur de Lesdiguières. On peut être un historien amateur et néanmoins rigoureux. J'allais donc à la Bibliothèque nationale, la BN, comme disaient les chercheurs, pour intensifier mes recherches. Lesdiguières naît le 1er avril 1541, d'autres disent en 43, à Saint-Bonnet. Sur la porte de sa maison natale figure l'année 1543. Il est du signe du Bélier, il arrive dans une famille qui possédait quelques terres à l'Ail, à la Rochette, et une petite maison au Glaisil, à Maud de Diguières. Son père, modeste notaire de Saint-Bonnet, s'appelle De Beaune. Le petit François De Beaune est confié à son parrain, l'abbé du couvent Saint-André des Avignons, où il prépare son entrée au prestigieux Collège de Navarre, fondé par Jeanne de Navarre, épouse de Philippe le Bel. L'école polytechnique s'y installera en 1804, sous l'ordre de Napoléon. Au même siècle, ce collège prestigieux, disais-je, eut pour élève Pierre de Ronsard, le cardinal de Richelieu, etc. Peu de hauts alpins fréquentaient à cette époque l'établissement si célèbre. L'influence des prêtres d'Avignon fut sans doute déterminante pour qu'il y fût admis. Ce court passage dans ce collège de la montagne Sainte-Geneviève conditionnera, à mon avis, la fulgurante carrière du futur connétable. En effet, il eut comme condisciple, comme pote, comme diraient les jeunes d'aujourd'hui, un jeune garçon, né lui à Paris le 14 décembre 1553. C'est son cadet de 10 ans. Il deviendra roi de Navarre en 1572 et roi de France sous le nom d'Henri IV en 1585. C'est le fils de Jeanne d'Albret et d'Antoine de Bourbon. Entre les deux internes de ce collège, comme cela est souvent le cas, se crée un lien qui sera déterminant dans la carrière de notre héros. Mais le jeune François de Beaune n'est pas un intellectuel. Son champsaur natal lui manque. Le métier des armes l'attire plus que les lettres. Depuis 1562, les tensions religieuses s'exacerbent grâce aux thèses de Martin Luther King qui contestent l'autorité du pape. Un parent de Lesdiguières, Guillaume Farel, dont on retrouve la plaque sur la grande place de Gap, mourra en 1565. C'était un grand prédicateur protestant de Gap, au verbe assassin. Il propagea la réforme à tout le champsaur. En 1532, au concile de Champforan, il décida les Vaudois de la Valouise, de la Frayssinière, de rejoindre du Queyras, de rejoindre le protestantisme. Notre jeune ambitieux, qui vient de perdre son père, entre lui aussi dans la dissidence, puisqu'il est né catholique, et s'impose en quelques années comme un redoutable chef de guerre. Désormais, ses soldats l'appellent de Diguières, ou Lesdiguières. Stratège habile, très mobile, il harcèle les troupes catholiques et se replie à Serres, puis Mort et Le Glaisil, tous des lieux, notamment Serres et Le Glaisil, où il construira un petit château. Il prend Gap en 1577, puis pille le trésor de la cathédrale d'Embrun et les archives de l'archevêché, le fameux Santo Bottino, qui est aujourd'hui à l'université de Cambridge. La prise d'Embrun le 18 novembre 1585 signe la victoire sur son principal adversaire, le prince-archevêque Guillaume d'Avançon, qui se réfugie chez le duc de Savoie. Toutes ses expositions, ses expéditions militaires accroissent sa fortune. Il devient très riche. Cela lui permet d'entretenir une importante armée jusqu'à 30 000 hommes et de faire construire l'immense château de Vizil, qui fut un temps résidence d'été des présidents de la République, qui appartint à la famille prestigieuse industrielle. C'est un bon gestionnaire et un bâtisseur. Ses nombreux châteaux, Vizil, Glaisil, sont magnifique. Il rachète un bel hôtel particulier à la rue de Cérizay à Paris dans le Marais. Il a des mines de charbon à la Mure, fabrique le fer, etc. En 1587, son fils unique est tué par un coup de pied de cheval. Il n'y aura donc pas de dynastie. À la bataille de Pontcharrat, il défait le duc de Savoie, ce qui permet de rattacher au Dauphiné Grenoble en 1590. Il n'est pas un danger seulement pour Charles-Emmanuel, qui l'a vaincu et qui l'écrase dans les campagnes de 1582, 1583, 1585, mais aussi il devient un risque pour le pouvoir central. En effet, il contrôle maintenant la frontière de Genève à la mer. Henri IV est roi depuis 6 ans. Il ne doute pas de l'amitié et de la fidélité de son ancien condisciple au Collège de Navarre, mais l'entourage royal, lui, est plus inquiet, au point de conseiller au roi de nommer Lesdiguières amiral des mers du Levant afin de l'éloigner. Mais Lesdiguières, en 1595, fort de l'appui de quelques autres grands ducs de Bretagne, de Normandie, aurait pu tenter un coup d'État et détrôner Henri IV très affaibli. C'est pourquoi le 5 septembre de la même année, il vient avec sa cour rencontrer le lieutenant général du Dauphiné de Grenoble afin de l'amadouer et tester sa fidélité. 15 ans plus tard, le 15 avril 1610, Ravaillac, le régicide, accomplit sa triste besogne ouvrant les portes du pouvoir à Louis XIII et à Richelieu. Le roi a 56 ans. Il a eu 5 enfants dont 3 ont survécu et 12 illégitimes. On lui doit le Pont Neuf, la place des Vosges, la place Dauphine. Son édit de Nantes a pacifié le pays. De plus, son représentant François de Beaune de Lesdiguières a signé avec Charles-Emmanuel Ier, duc de Savoie, le fameux traité de paix de Bruzzolo. L'assassinat d'Henri IV, rue de la Ferronnerie, alors qu'il se rendait chez son ministre Sully, souffrant, va bouleverser la vie du Champsaurin. En effet, si les rapports avec Henri IV étaient fraternels, de confiance, ils seront plus compliqués, plus suspicieux avec Louis XIII, Richelieu et la Médicis. Un tableau du musée de Gap nous montre Henri IV confiant ses enfants à Lesdiguières, quel beau signe de confiance réciproque. Mais les temps ont changé. Henri IV s'est converti, car Paris vaut bien une messe. Mais Lesdiguières, lui, reste un danger. Il pourrait prendre la tête d'une confédération protestante, et le pouvoir à Paris, fragile, est à prendre. Rêve un instant de transformer le royaume en république. Les historiens les plus sérieux s'accordent à dire que s'il avait voulu, au début de la régence, le Champsaurin eût pu balayer la monarchie et instaurer la république protestante. Mais Lesdiguières n'est plus très jeune. De plus, il tombe amoureux de Marie Vignon, qu'il a rencontrée à Grenoble en achetant des habits dans un magasin tenu par son mari. Le mari, d'ailleurs, va vite disparaître. Pour l'amadouer, Marie de Médicis, la régente, nomme Lesdiguières duc puis maréchal. Le futur Louis XIII n'a que 9 ans. Voici François, duc du Champsaur, duc parmi les ducs de Bretagne, de Normandie, de Bourgogne. Il est patron de la justice en Dauphiné, chef des armées. La subtile Florentine a compris que le Champsorel, désormais trop vieux, ne sera plus tenté de prendre le pouvoir en France. Sa sagesse de montagnard le pousse à se contenter des titres prestigieux et des joies de l'amour qu'il découvre tardivement avec la belle et sensuelle Marie. Et puis, il ne veut pas finir comme Henri IV. N'a-t-il pas échappé de justesse à la Saint-Barthélemy, sauvé par une information qui lui fit quitter précipitamment le Louvre la veille de la date fatidique et regagner rapidement le Champsaur? En 1629, Louis XIII et Richelieu viennent le voir dans son château du Glésil. Richelieu écrit à la reine, et on retrouve dans ce texte, « Ici, il fait très froid, vraiment très froid. L'endroit est lugubre, mais l'accueil est chaleureux. Lesdiguières souhaite devenir maréchal et connétable, c'est-à-dire chef des armées. Pour cela, il négocie. On lui fait comprendre que cela pourrait être s'il se convertit. Marie Vignon joue de l'influence classique d'une femme jeune et belle sur un monsieur qui vieillit. Ainsi, le 24 1622, Lesdiguières plonge les protestants du Dauphiné dans la consternation et fait le bonheur du clergé catholique. À Grenoble, en présence de Guillaume d'Hugues, il déclare « Messieurs, je suis catholique et en état de faire tout ce qu'il plaît à sa majesté. Allons à la messe. » La messe sera dite par l'archevêque d'Embrun. Puis Louis XIV lui écrit « Depuis 60 ans, vous avez commandé plusieurs armées, assiégé des places, donné bataille et toujours vaincu. Monsieur, puisque vous êtes maintenant catholique, je vous donne la charge de connétable. Le voilà chef des armées. » Lesdiguières est maintenant tout puissant. Louis XIII lui fait totalement confiance. Richelieu peut être jaloux et toujours suspicieux, c'est sa nature, et plus méfiant. Les protestants sont bien sûr écœurés par cette abjuration. Les guerres de religion reprennent dans les Hautes-Alpes. Pour qu'elles ne tombent pas aux mains des protestants, Lesdiguières fait détruire les places fortes, notamment le château fort de Saint-Grépin, mais aussi la citadelle de Puymort à Gap. Puis il passe le mont Genève à 82 ans, malgré la neige et le froid. Il a rassemblé 30 000 hommes dans son grand château de Vizille. Mais les temps ont changé, tout commence à l'abandonner. Les soldats manquent de tout, de nourriture. Pour lui, le grand spécialiste des guerres de montagne, cette campagne est un échec. Les protestants se sont renforcés, il doit les combattre en 1626 dans le Vivarais, où il mourra près de la citadelle de Mévouillon, le 26 septembre 1626. Il n'a pas donc de descendance, seulement sa fille, Marie-Madeleine Charles de Créqui, qui aura une postérité. Il ne restera rien de l'extraordinaire saga du grand Champsaurin. Son beau château de Diguières près du Glésil sera vendu aux enchères puis détruit par Victor Amédée de Savoie. Les pillards mettent à sac tous les Champsaur. Louis XIV laisse faire. Seul Catina, basé à Saint-Grépin, engage ses troupes par Palon et Frécinière, rejoint Orcières et Boutte du Champsaur les troupes du Caprara. Belle leçon de philosophie qui montre l'ingratitude des grands. Et comme disaient les anciens, Sic transit gloria mundi, ainsi passent les gloires de ce monde. Pour l'historien local que je suis, Lesdiguières laisse le souvenir du seul alpin du Sud qui faillit conquérir le pouvoir suprême. Quelques siècles plus tard, l'Ubayen Paul Reynaud sera président du Conseil en 1940. Mais ceci est une autre histoire, comme disait Kipling.
Merci beaucoup.